France Culture, 18h, le journal. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La crise grecque couve toujours à Luxembourg où aucun compromis ne se dessine. La patronne du FMI, Christine Lagarde, prévient qu'il n'y aura pas de délai de grâce pour les Grecs. Nous en parlons avec Marie Viennot. La Russie veut construire un nouveau gazoduc qui ira jusqu'en Allemagne. Gazprom a déjà procédé aux signatures. Marc Crépin nous appellera du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Et puis dans cette édition, nous nous arrêterons aussi sur le Salon du Bourget où l'aéronautique innove grâce à l'open data. Ce sera un dossier signé Hakim Kasmi. 18h20 du Grain à Moudre avec vous Hervé Gardette.
L'économie collaborative n'est-elle qu'un sous-produit du capitalisme? Nous en discuterons avec quatre acteurs de ce secteur, Laure Wegner, Vincent Ricordo, Nicolas Donifray et Florbert Lingen.
À tout à l'heure. Toujours aucune fumée blanche à Luxembourg où les ministres des Finances de la zone euro sont réunis pour discuter une nouvelle fois de la dette grecque. Les voisins d'Athènes demeurent intransigeants et exigent des réformes du gouvernement de Tsipras, lequel ne veut pas franchir les lignes rouges qu'il s'est fixées. Mais le cadran tourne et l'échéance du 30 juin approche, brandie comme une date clé par le FMI notamment, qui attend ce jour-là qu'Athènes lui rembourse 1,6 milliard d'euros. Il n'y aura pas de délai de grâce, vient d'ailleurs de dire aujourd'hui la patronne du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. Alors, quelles sont les implications de cette toute dernière déclaration, Marie Viennot?
C'est un argument souvent mis en avant pour dénoncer l'incurie des Grecs. Si le pays ne rembourse pas le FMI le 30 juin, il rejoindra potentiellement le Zimbabwe, le Soudan et la Somalie, les trois pays qui n'ont pas honoré leurs dettes auprès du FMI. Symboliquement, ce serait mauvais, mais cela ne serait pas la flamme qui ferait tout s'embraser. Le déclencheur de la grande crise est ailleurs, affirme François Cabot, analyste à la Banque Barclays.
Il y a toute une procédure qui dure sur plusieurs mois, en fait, où le FMI prend note d'un non-paiement. Les lettres sont échangées entre le ministère des Finances et le FMI pendant au moins deux mois. Et donc, du coup, il n'y a pas d'implication directe sur un non-paiement. C'est qu'après quelques mois que la situation évolue, si les retards et si les arriérés, en l'occurrence de la Grèce, ne sont pas corrigés. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, la vraie date importante, c'est cette date du 30 juin, à partir de laquelle la Grèce va sortir du cadre légal du programme d'aide. Et si c'est le cas, là, ce qui nous inquiète plus, c'est que si il n'y a pas d'accord avant cette date-là, ça veut dire que la BCE pourrait être en mesure de ne plus augmenter ces niveaux de liquidité accordés aux banques grecques.
Or, ces liquidités permettent aux banques grecques de distribuer des euros, que cela soit dans les distributeurs ou de façon électronique. Et depuis janvier, ces retraits ne cessent d'augmenter. Encore plus depuis le blocage des négociations la semaine dernière. Inquiets, les Grecs ont retiré 2 milliards d'euros en 3 jours. Si la Banque Centrale Européenne coupe le robinet à liquidité, les banques grecques feraient faillite. De plus, elles ne pourraient plus prêter à l'État grec, comme elles le font actuellement. Ils ne pourraient plus payer ses dépenses, les salaires, les retraites. Et on pourrait alors dire que la Grèce est en faillite. Mais ce scénario noir ne dépend pas du FMI, il dépend de la Banque Centrale Européenne. Faute d'accord, après le 30 juin, c'est elle qui tiendra l'allumette en main.
Marie Viennot, merci. Alors on part maintenant pour la Russie qui n'hésite pas à se poser, elle, en franc soutien d'Athènes. Ainsi Vladimir Poutine s'affiche-t-il aux côtés d'Alexis Tsipras qui vient d'arriver à Saint-Pétersbourg, là où se tient un important forum économique. Ce rendez-vous des milieux d'affaires est par ailleurs l'occasion pour le Kremlin d'infliger un joli camouflet à l'Union européenne. Il faut dire qu'hier, les 28 ont décidé de prolonger jusqu'en janvier prochain les sanctions contre la Russie. Le Kremlin annonce donc qu'il fait de même en continuant à boycotter notamment les produits agricoles européens. Et puis dans le domaine de l'énergie, Moscou confirme la création du gazoduc dont ne voulait surtout pas entendre parler Bruxelles. Il s'agit d'une nouvelle ligne d'approvisionnement qui ira de la Russie jusqu'à l'Allemagne. Le contrat a déjà été signé entre les multinationales du pétrole à Saint-Pétersbourg, d'où nous appelle notre correspondant Marc Crépin.
Parmi les dizaines d'accords passés ici entre sociétés russes principalement, le projet d'un gazoduc vers l'Allemagne a évidemment fait sensation. On savait que Shell se préparait à signer un gros contrat, mais après tout, comme Total ou BP, c'était dans l'ordre des choses pour ces groupes pétroliers internationaux qui n'ont jamais quitté la Russie malgré les sanctions. Mais on a appris que dans la foulée, deux entreprises, une allemande et une autrichienne, s'engageaient aussi dans l'opération. Pour le moment, il ne s'agit que d'une déclaration d'intention et il faudra tôt ou tard trouver un financement pour ce nouveau gazoduc en dépit des sanctions occidentales. Le groupe Gazprom, le géant russe du gaz, paraît confiant et assure être capable de soutenir cet investissement. Si ce nouveau gazoduc voit le jour, dans plusieurs années, il permettra de doubler les livraisons de gaz à l'Europe. L'obsession de la Russie est désormais de contourner l'Ukraine. Voilà donc pour la route par le nord. On saura demain, avec la venue du Premier ministre grec Alexis Tsipras, si un autre projet passant, cette fois par le sud, et donc par la Grèce, est au programme.
Et puisqu'on parle d'Europe, le vice-premier ministre le premier vice-président de la Commission européenne, c'est plus juste, vient de critiquer le projet de loi sur le renseignement, projet débattu en France et qui pourrait soulever d'importantes questions de droit, indique Frans Timmermans. Il répond par écrit à deux députés français qui se sont inquiétés d'un texte qui, selon eux, viole la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Commission européenne ne se prononcera pas sur le fond avant l'adoption de cette loi prévue pour le 24 juin. Dans l'hémicycle, à Paris, cette fois, les députés discutent de la motion de censure déposée par la droite et que votera le Front de gauche. Ces partis sont ulcérés parce que le Premier ministre a dégainé l'arme du 49-3 afin de faire passer la loi Macron. Une pratique qui a suscité les foudres de Christian Jacob. Tout à l'heure, le chef de file du groupe des Républicains, ex-UMP, ne mâche pas ses mots à l'adresse de Manuel Valls.
Il y avait eu le vote de confiance étriqué en septembre. Il y a eu le premier 49-3. Il y a maintenant ce second 49-3 décidé dans des conditions de mépris du Parlement jamais égalées. Vous avez engagé votre responsabilité sur un texte qui n'a jamais été présenté dans l'hémicycle. Vous violez notre Constitution modifiée en 2008. On se souviendra de vous ici comme le Premier ministre qui a humilié et trahi sa majorité, qui a violenté le Parlement et notre Constitution pour un tout petit dessein, se maintenir coûte que coûte à Matignon. La noblesse aurait été d'aller au vote et, le cas échéant, d'en tirer les conséquences en vous démettant ou en convoquant des élections législatives. Au point où en est la France, c'est le meilleur service qu'on pourrait lui rendre.
Le député Christian Jacob, tout à l'heure à l'Assemblée nationale, où l'on reparle de l'affaire Karachi qui sera bientôt jugée en correctionnel. Six prévenus sont renvoyés en procès, dont Nicolas Bazire, l'ancien directeur de campagne d'Edouard Balladur. La Cour d'appel de Paris vient en effet de rejeter un recours qui était formulé par la défense des mises en examen. Recours demandant à ce que les familles des victimes de l'attentat de Karachi ne soient pas parties civiles dans ce futur procès qui porte exclusivement sur le volet financier de l'affaire, donc sur la question des rétrocommissions qui auraient pu financer la campagne présidentielle d'Edouard Balladur. Recours rejeté donc à la grande satisfaction de l'avocat des familles des 11 ouvriers français qui sont morts à Karachi, maître Olivier Maurice avec Florence Turm.
C'est à l'origine la plainte que nous avons déposée pour le compte de ces familles qui a donné lieu à l'ouverture de ce volet financier. Et je crois que ce sera l'occasion de montrer quelles ont été les méthodes utilisées à l'époque pour se servir d'un contrat d'armement afin d'une part de financer la campagne présidentielle d'Edouard Balladur et puis d'autre part qu'il y a eu à la suite de la découverte par le président Jacques Chirac de ces rétrocommissions un arrêt qui à notre sens a conduit à cet attentat qui a coûté la vie à un certain nombre de nos compatriotes. C'est donc pour les familles très important d'être là, de dire l'abandon qu'elles ont subi par l'État pendant de très nombreuses années. Et puis nous verrons ensuite, lors de ce procès, de quelle façon les protagonistes se comporteront. Je n'oublie pas aussi une chose qui est très importante. Vous savez que les donneurs d'ordre politique dans cette affaire, à savoir l'ancien Premier ministre M. Edouard Balladur et M. François Léotard, ministre de la Défense, attendent toujours que la Cour de justice de la République les mette en cause. On s'étonne de cette inertie. On se demande vraiment, je le dis tout simplement, à quoi sert encore aujourd'hui cette Cour de justice de la République.
Maître Olivier Maurice avec Florence Sturm. Marine Le Pen vient d'annuler son voyage aux Antilles. Elle devait aller en Guadeloupe et en Martinique 5 jours la semaine prochaine. Officiellement, dit le communiqué, elle ne part pas parce que son parti est en plein bouleversement. En réalité, on sait que le comité Marine Dehou, qui veut dire Marine dehors en créole, a donné de la voix. C'est la 3e fois que la patronne du FN tente vainement de se rendre dans les Antilles. À chaque fois, elle annule son voyage. On s'arrête maintenant au salon du Bourget où s'achèvent les journées journée professionnelle. Demain, le grand public arrive. C'est donc l'occasion d'un bilan. Boeing a gagné cette année en engrangeant plus de commandes qu'Airbus. 18,6 milliards de dollars de ventes fermes pour l'Américain, 16,3 milliards pour l'Européen. Mais dans l'ensemble, l'industrie aéronautique se porte bien avec une croissance du trafic, notamment de 5% par an. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Tara.
Vous vous êtes intéressé à l'une des grandes tendances de ce salon, à savoir le rôle des open data, qui sont l'analyse des données et du numérique dans l'industrie aéronautique.
Et oui, et quand un grand groupe comme Airbus lance la 350, son dernier avion, entre la conception, la production et les essais en vol, il faut plusieurs années pour que l'avion soit commercialisé. La récupération des données permet donc d'améliorer les performances des moyens de production, comme par exemple sur les machines-outils, pour réduire le taux de revue. Ça peut être par exemple l'humidité ou l'air qui peut impacter la production. Ghislaine Ducamp, directrice de Safran Ethics, Safran le numéro 1 mondial des moteurs d'avion.
Les technologies qu'on utilisait traditionnellement étaient plus à taille humaine. Et là, on va générer énormément de données. Il y a des flux et des procédés qui sont complexes. Il va falloir tenir compte d'énormément de facteurs pour maîtriser les procédés, pour réduire les non-qualités. Donc, effectivement, le Big Data est quand même une technologie et des méthodologies qui sont totalement adaptées pour des processus complexes.
Alors, avec l'innovation pour améliorer aussi, par exemple, le pilotage ou le confort des passagers, il y a aussi de plus en plus de câblage dans les avions. 500 km pour un Airbus A380, par exemple, de câblage. Arnaud Pelletier dirige la start-up WinMS qui est spécialisée dans la surveillance des câbles et cela permet de réduire, eh bien, grâce à son système, le temps que passe un avion en révision de plusieurs heures, ce qui est considérable car un avion qui ne vole pas, c'est un avion qui coûte cher aux compagnies.
Nous, on se met à une seule extrémité et puis immédiatement, en fait, on a une information du type de défaut et de la distance au défaut. Donc on va pouvoir donner l'information de localisation exacte de ce défaut. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis demain, c'est l'objet d'un démonstrateur qu'on a amené sur ce salon en collaboration avec une autre start-up qui s'appelle Diotasoft, où maintenant, on est capable aussi de donner l'information de localisation de ce câble en réalité augmentée. C'est-à-dire que l'opérateur il va pouvoir filmer l'avion avec sa tablette et voir en temps réel exactement la zone où elle défaut.
Alors on entend que le numérique joue un grand rôle dans les nouveaux processus de fabrication, Hakim, mais les innovations concernent aussi concrètement les passagers.
Et oui, aujourd'hui ça paraît banal, mais on peut avoir accès à des centaines de films à la demande, à de la musique et même à Internet, selon les compagnies, comme nous l'explique Susanna Ankolova, responsable marketing chez Airbus.
Demain, les passagers vont être capables de transmettre les data beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Donc grâce au satellite Inmarsat, aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir la connectivité à bord.
Mais c'est payant pour l'instant, les compagnies vont payer aux passagers.
Alors ça dépend des compagnies aériennes. Il y a les compagnies aériennes qui offrent la connectivité gratuitement. C'est un certain investissement, mais si la compagnie aérienne met en place une politique de vente des billets, donc ils peuvent gagner plus de marché, équilibrer l'investissement ou rattraper l'investissement sur cet équipement.
Alors l'avenir pour les passagers, ce sera les lunettes 3D. En attendant, l'innovation reste primordiale pour les grands groupes comme Airbus ou Boeing, car la concurrence va s'intensifier avec l'arrivée très proche de la Chine qui va commercialiser dans 2 à 3 ans son premier avion de ligne, le Comac C-919, qui sera un concurrent direct de l'Airbus A320 et du Boeing 737.
Merci beaucoup Hakim Kasmi. Quelle stratégie choisir pour le numérique en France? Ce matin, le Premier ministre Manuel Valls, en compagnie de 3 ministres, était devant la presse pour présenter ses propositions. Il a notamment promis d'inscrire dans la loi le principe de la neutralité du net. Avant de dévoiler sa stratégie pour la France, Manuel Valls s'est vu remettre un rapport par le Conseil national du numérique contenant 70 propositions. Bonsoir Abdelhakel Idrissi.
Bonsoir.
Toutes ne seront bien sûr pas retenues.
Et le rapport fait quand même 400 pages issues de plusieurs mois de concertation nationale avec près de 17 000 contributions. Et il contient des propositions ambitieuses qui parfois vont à l'encontre des idées du gouvernement sur la question de la surveillance d'Internet, par exemple, mais le gouvernement de Manuel Valls reprendra quand même les deux tiers des propositions.
Même si nous devons, pour certaines, prendre le temps de la réflexion, même si nous ne serons pas d'accord sur tout, nous partageons d'abord le plus important, le constat qu'aujourd'hui, notre monde est numérique et que l'État ne peut pas se contenter d'observer et de s'adapter. Il doit être un acteur majeur avec à la fois la neutralité qui le caractérise, mais aussi avec l'œil politique.
Concrètement, l'idée est de porter cette ambition numérique dans tous les secteurs de la vie quotidienne. Ce matin, Manuel Valls a donc présenté sa stratégie en reprenant la devise de la République. Liberté d'innover, un chapitre qui contient toutes les facilitations à venir pour les entreprises et les start-up afin de créer de la croissance économique numérique. Égalité des droits, notamment l'inscription dans la loi du principe, vous l'avez dit, de neutralité du net et des pratiques plus strictement encadrées pour les géants du net. Fraternité enfin d'un numérique pour tous, notamment à destination des personnes âgées et handicapées. Manuel Valls a ajouté un quatrième point, l'exemplarité de l'État concernant la généralisation de l'open data et de véritables services publics numériques. La loi numérique qui sera portée à l'automne par Axel Le Maire reprendra en grande partie ces nouveautés, dont certaines serviront de base pour aller négocier au niveau européen.
Il peut être intéressant, y compris dans des stratégies de négociation, de faire passer des dispositions dans le droit français pour peser ensuite à Bruxelles. Je vous donne un exemple. Nous avions décidé d'introduire dans le droit français le droit à l'oubli pour les mineurs. Nous avons défendu cette position aussi au niveau européen pour finalement convaincre une majorité d'États membres. Et aujourd'hui, cette disposition, elle sera introduite dans le règlement sur les données personnelles.
Le gouvernement espère enfin que symboliquement cette loi numérique apaise le débat après l'examen très tendu de la loi renseignement.
Merci beaucoup Hakim Kasmi. Abdelhak El Idrissi. Aux États-Unis, on vient d'arrêter un jeune homme blanc de 21 ans à Shelby en Caroline du Nord. Il est l'auteur présumé de la fusillade qui a tué hier 9 personnes dans une église. Le suspect a été identifié comme Dylan Roof, habitant dans les environs de Columbia, la capitale de Caroline du Sud, située à 2 heures de route de Charleston, là où a eu lieu la fusillade hier. Le président Barack Obama doit s'exprimer sur cette fusillade. Le suspect très dangereux, a dit le procureur, est resté pendant près d'une heure avec le groupe qui étudiait la Bible dans cette église avant de tirer. La fusillade a donc fait 9 morts hier dans cette église qui est fréquentée essentiellement par la communauté afro-américaine. On y reviendra sûrement à 22h. Au Guatemala, la colère gronde contre le président Otto Pérez depuis qu'au printemps dernier, un vaste scandale de corruption a été découvert. La vice-présidente a dû démissionner début mai et hier, la Cour suprême a demandé à ce qu'on examine la levée de l'immunité de l'actuel chef de l'État. Aujourd'hui encore, 30 000 personnes ont défilé, comme le raconte Omar Geronimo. Il est militant au sein d'une coordination qui défend notamment les petits paysans et les autochtones.
Las manifestaciones en Guatemala,
il y a des manifestations toutes les semaines, tous les samedis. Et donc le mouvement prend une forme très intéressante maintenant avec la jeunesse qui descend vraiment dans la rue et qui est vraiment fatiguée de la situation telle qu'elle est aujourd'hui au Guatemala et de la corruption insupportable. En fait, aujourd'hui, il y a des organisations internationales qui sont au Guatemala et qui ont pu mettre à jour en fait tout ce système de corruption et tous les fonctionnaires, en fait, les ministres, les députés, sont mouillés dans cette corruption du pays.
Est-ce que cette corruption a des conséquences sur les droits de l'homme ?
Totalement. Et le problème de la corruption,
finalement, c'est que ça, bien sûr que ça a une incidence sur les droits de l'homme, puisqu'il s'agit du coup des peuples qui sont déplacés, des enfants qui ne peuvent pas avoir à manger, parce que l'État ne peut pas subvenir à leurs besoins. Donc la corruption a un système, évidemment, qui a une incidence énorme sur les droits humains.
Vous défendez les communautés autochtones, vous faites un peu le travail de Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix.
Rigoberta Menchú,
Rigoberta Menchú représente effectivement, symbolise le travail des droits humains au Guatemala et on l'admire évidemment. Elle nous montre que le racisme au Guatemala est extrêmement profond et structurel. Quand Rigoberta Menchú parle, la classe moyenne ou la classe haute du Guatemala n'écoute pas ce qu'elle dit et ne rit pas seulement de ce qu'elle dit mais de ce qu'elle est. Elle-même, c'est-à-dire une indigène, une autochtone.
Est-ce que personnellement, en tant que militant des droits de l'homme, vous avez été intimidé, menacé, agressé?
Hace 2 ans, hemos puesto una denuncia.
Il y a deux ans, il y avait des papiers qui circulaient offrant 100 000 dollars pour que l'on me tue. Et donc j'ai fait une plainte au ministère public. Tous les jours, il y a une menace de mort. C'est tellement quotidien qu'on finit par s'habituer à vivre avec la violence.
Omar Geronimo, défenseur des droits de l'homme au Guatemala, qui est en tournée en ce moment en Europe, interrogé par Nadine Epstein avec une traduction de Camille Bossé. Un tout petit mot du temps qu'il va faire demain, temps plutôt agité en France avec beaucoup de nuages du sud-ouest au Jura, de la forte tramontane et du Mistral aussi près de la Méditerranée. Prochain journal complet de la rédaction à 22h présenté par Stanislas Vazak.